dit souvent que les murs ont des oreilles.
Là-haut sur la colline.
Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement.
Et c'est l'heure de la chronique consti avec Patrick Taillon, notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Patrick, tu es aussi un lecteur du journal, puis ça me fait plaisir. Tu veux revenir aujourd'hui sur le dossier, le grand dossier qu'on a fait sur le français au Québec et au Canada, surtout dans le reste du Canada.
Un dossier à lire et à relire qui, en tout cas chez moi, provoque quand même une certaine douleur. Hein. C'est pas un portrait c'est un portrait lucide de la situation. Puis au final, le déclin démographique du poids des francophones hors Québec et ou incluant le Québec dans le Canada, c'est une constante là, dans notre histoire. Il y a néanmoins des périodes où la chose s'accélère, des périodes où la chose se stabilise. Mais moi, ce qui me marque là-dedans, c'est peut-être une façon de faire un lien avec notre chronique, notre rendez-vous habituel, c'est comment, à quelque part, le droit se situe par rapport à ça. Il y a des périodes où le droit est un accélérateur du déclin du français. À d'autres moments, il essaie, au contraire, de lutter contre cette tendance, parfois avec un succès relatif, parfois avec pas vraiment de succès du tout. Il y a quelque chose de paradoxal dans la manière dont, particulièrement le droit fédéral, moi, je suis de ceux qui prétendent qu'Ottawa en fait beaucoup pour le français au Canada.
Quand même.
Et que le problème, c'est pas la quantité d'efforts ou d'argent ou d'énergie investie pour promouvoir le français. C'est que je suis pas certain que les efforts ont été investis au bon moment de l'histoire.
Ah oui, au bon moment de l'histoire.
Et même encore aujourd'hui, je suis pas sûr les efforts sont nombreux, même colossaux. Il faut être honnête, moi je fais souvent du droit comparé, ça m'arrive souvent de me tourner vers des pays, des fédérations multilingues, avec plusieurs langues, plusieurs communautés nationales. Je pense à la Suisse et à la Belgique qui sont des comparables. Mais le type de bilinguisme fédéral qu'on pratique en Belgique et au Canada en Suisse, le Canada fédéral n'a pas à rougir de cela. Fait que l'ampleur des efforts déployés par Ottawa est quantitativement au rendez-vous, mais moi, je pense qu'il n'est pas qualitativement au rendez-vous. Et donc, les efforts sont pas toujours mis aux bonnes places, et ce paradoxe entre le droit et l'évolution démographique est assez frappant. Quand on regarde la longue histoire, au fond, Antoine, là, il y a à peu près juste une période ou deux où le fait français dans le Canada a réussi à peser très lourd. Deux périodes fort éloignées, qui ont donné, à mon avis, dans les deux cas, un portrait, qui ont créé une distorsion. La première, c'est, je dirais, là, après l'effet Lord Durham, quand on s'est rendu compte que ça marcherait pas, l'assimilation, il y a eu un espèce de moment très dualiste dans l'histoire canadienne, disons entre 1848 et 1867. Là, je mets l'adoption de 1867 là-dedans à certains égards.
Oui, parce qu'il faut rappeler que Lord Durham, lui, fait son rapport dans les années 40. Hein,
exactement.
Après les rébellions, puis son constat, c'était qu'on était un peuple sans littérature et sans histoire. Mais toi, tu dis qu'il y a comme une réaction à ça par après.
Il y a une période très positive là qui s'engage. Puis
ça a créé l'Union, parce que ça, c'est dans l'histoire constitutionnelle, c'est 1840, l'Union, si je ne m'abuse.
L'Union, elle est assimilationniste. Il y a même des dispositions qui imposent l'anglais comme seule langue officielle. Mais là, on a un droit qui veut assimiler le fait français.
Mais
on a une réalité politique, sociologique et démographique qui fait en sorte que la colonie n'est pas gouvernable sans un vrai pacte, sans une vraie reconnaissance de la dualité. Et donc, toute cette période où on forme des gouvernements à deux têtes, avec deux chefs, McDonald, Cartier, La Fontaine, Baldwin, c'est une période où, un, les francophones sont très, très, très conscients de leurs intérêts, très conscients des enjeux existentiels qui sont les leurs. Et en même temps, il y a, du côté anglophone, une volonté de coopérer, une relative bonne foi, relative, là, on pourrait nuancer, mais qui se traduit dans une certaine reconnaissance de la dualité. C'est dans ces années-là que l'on va diminuer les effets pervers du rapport Durham, qu'on va adopter le Code civil, qui fait partie de cette dualité-là, puis qu'on va adopter quand même les aspects de 1867 qui milite vers cette vision de deux peuples fondateurs. Mm-hmm. Puis cette période-là, elle nous conduit à occuper un poids politique quand même assez important qui correspond pas tout à fait à notre poids démographique de l'époque, mais c'est comme si les anglophones n'ont pas le choix de gouverner en dualité avec les francophones, parce qu'ils sont encore majoritaires, du moins au début de cette période-là, et ensuite opère le basculement. Et l'autre période qui crée peut-être la même illusion, elle est plus proche de nous, mais c'est la période des années 1960, l'arrivée de Pierre Trudeau avec la loi sur les langues officielles, jusqu'à à peu près aujourd'hui, où on a eu une période politique où les dirigeants fédéral qui parle français ont été un peu surreprésentés, très présents. Il y a eu des gestes pour essayer de réparer toutes les années de la grande noirceur linguistique canadienne, si je peux dire. Ouais. Et donc, il y a eu des gestes pour essayer de rétablir les choses. Et ces deux périodes-là sont peut-être les deux seules où le droit essaie de marquer des pas en avant pour essayer d'enlever les effets les plus pervers de la dynamique canadienne. Tout le reste du temps, la dynamique canadienne et joue en défaveur des intérêts des francophones dans cette fédération. Dans les années qui suivent 1867, là, on a encore beaucoup de communautés francophones, là, même des provinces dans la période où on développe les provinces de l'Ouest, les autochtones et les francophones et les métis occupent un poids démographique considérable. Et donc, on est durant cette période dans une logique où il faut comme écraser, assimiler cette dynamique démographique pour imposer en quelque sorte une vision ontarienne du Canada.
Ouais, ouais.
Et donc, on est dans une dynamique d'un Canada qui est dans une conquête de l'Ouest, dans une logique d'expansion. Et dans cette logique d'expansion, ben, il faut passer le rouleau compresseur sur les aspirations de Louis Riel.
Et la corde au cou de Louis Riel.
Exactement, exactement. Et moi, j'ai bien peur que, avec l'initiative du siècle, avec l'ambition de Justin Trudeau, qui est une forme de conquête pour le Canada, qui est une forme d'expansion. C'est-à-dire que l'expansion qu'on a connue, si je peux dire, de 1870 à 1960, qui était un peu la phase du Canada, là, expansion vers l'Ouest, et on écrase les droits des francophones avec règlement 17, avec tout ce qui s'est passé au Manitoba, etc.
Ça, c'est en Ontario, règlement 17. Ça interdisait l'enseignement du français.
Non, mais sur le plan juridique, là, toutes les provinces ont joué dans le film qui consistait à dire « Oh, il y a un malentendu dans 1867. Vos écoles, elles seront pas sur une base linguistique.
Ouais,
on va vous faire des écoles catholiques. Ouais. On va vous faire des écoles catoliques, mais elles seront pas nécessairement francophones.
Moi,
ça, c'est la grande trahison de 1867. Le jour où on dit « Oh non, c'est pas écrit des écoles françaises en Ontario. C'est écrit des écoles catholiques. Mmh. On va vous en faire des catholiques unilingues. » C'est ça, le règlement 17. Et là, c'est la grande trahison qui va être faite autour de la fin du 19e siècle et durant toute cette période d'expansion vers l'Ouest. Je t'ai interrompu, je m'excuse.
Ben, j'ai participé au dossier. Évidemment, je suis allé dans trois provinces dans l'Ouest. Je suis allé au Manitoba, en Saskatchewan, puis en Alberta. J'en suis pas revenu à quel point c'était récent, au fond, la permission d'avoir des écoles en français. Écoute, ça date des années 70. Tu sais, je veux dire, je suis né en 68, moi. Autrement dit, quand je suis né, c'est interdit d'enseigner le français dans ces trois provinces-là. C'est moi, pour moi, je connaissais l'existence du règlement 17, donc 1912, si je ne m'abuse, mais je savais pas que dans l'Ouest, ça avait été carrément interdit l'enseignement du français. Puis j'avoue que j'ai été ému d'entendre mon grand-père sur le discours là, que j'ai trouvé sur un disque vinyle, que oui. Disait carrément qu'il faut contourner les lois pour enseigner, transmettre le français aux enfants.
Oui, puis c'est une période qui est très longue et qui est très noire de l'histoire canadienne où il y a un projet, il y a comme une vision, il y a une ambition. Construire le Canada de demain, un Canada plus grand qui s'étend avec des nouvelles provinces, mais où l'expansion du Canada... Elle joue toujours en défaveur du fait français.
C'est ça.
L'équilibre démographique de 1867, le Québec une province sur quatre, le Québec un tiers de la population, on oublie ça, là. Dans ce projet expansionniste, on oublie complètement le fait français. Et justement, quand se produit l'inversion de cette dynamique-là, autour des années 60-70, Ben, ça se produit à un moment où, de toute façon, quand même qu'on adopte un droit plus favorable à la protection du français, il n'est pas trop tard. Mais on est désormais dans une dynamique où les rapports de force démographiques se sont tellement modifiés que le droit plus généreux qui s'installe avec la loi sur les langues officielles, ben, il ne sert plus à rien. Puis ce droit plus généreux, il s'installe pourquoi? Ben, il s'installe autour de l'idéal politique porté par Pierre Trudeau, mais il s'installe aussi en réaction avec ce qui se passe au Québec puis les premières lois linguistiques. C'est-à-dire que le Canada, le fait que le Québec commence à défendre sa langue avec les premières lois, notamment évidemment la loi 101, ça oblige le reste du Canada.
Ah, je pensais que tu allais dire la loi 22.
Oui, évidemment, mais je veux dire, c'est surtout avec la loi 101 que la chose va être judiciarisée.
Okay.
Et donc, les tribunaux canadiens sont placés dans une logique où ils ne peuvent plus ignorer le fait que dans le reste du Canada, on prend des libertés, pour pas dire on piétine les garanties historiquement consenties aux francophones, pour en même temps dire aux Québécois, vous prenez trop de libertés avec votre charte de la langue française.
Ben
donc, il y a une espèce de devoir de cohérence qui explique aussi en partie cette période-là. Je donne un exemple là, pour les initiés de la jurisprudence. Ben, quand, dans l'arrêt Blecky, pas longtemps après l'adoption de la loi 101...
1977, on,
vous avez pas le droit de faire ça. Ben, on se rend compte que, oups, au Manitoba, ils avaient les mêmes articles, puis ils faisaient ça depuis 1890, donc depuis près d'un siècle, toutes les lois et tous les règlements du Manitoba étaient invalides. Et là, la Cour suprême est saisie en quelques mois, quelques années, de deux litiges, un qui vient du Québec, où au fond, le Québec dit, ben, si le Manitoba a eu le droit de changer ces aspects-là de la Constitution, nous aussi, on va les changer. Mmh. Et là, automatiquement, la Cour suprême s'en saisit. Et là, en même temps, elle est saisie d'un litige qui concerne le Manitoba, alors que des jugements au Manitoba, il y en avait eu dans les années qui avaient suivi l'adoption. Ben oui, ces dispositions-là qui étaient inconstitutionnelles, elles ont été contestées, mais par des communautés francophones dotées de moyens modestes, puis par des les gouvernements du Manitoba qui ont suivi ont juste décidé d'ignorer ces jugements-là. Mm. Et donc, on pouvait plus se mettre la tête dans le sable du moment où, quand il y avait juste un litige au Manitoba, ben le gouvernement disait « OK, on a perdu, mais on changera rien ». Mais là, quand il y a le même problème au Québec, à un moment donné, la situation du Québec a forcé le Canada à être obligé de faire preuve de plus de cohérence. Mais je veux dire un mot de la période dans laquelle on se lance et qui, à mon avis, est fort différente puis à bien des égards inédite. C'est-à-dire que nous avons, avec le projet d'initiative du siècle du gouvernement Trudeau, une ambition expansionniste qui est pas territoriale, c'est pas le territoire canadien que l'on veut voir croître, mais sa population pour que le Canada atteigne le seuil du 100 millions d'habitants le plus rapidement possible.
En 2100.
Et ça relève...
C'est ça l'initiative du siècle.
Oui. Et ça relève de la même volonté expansionniste, mais c'est pas territorial, que ce qu'on a connu dans les pires heures de l'après-confédération, de la pendaison de Louis Riel jusqu'aux années 60. Il y a la même volonté, au nom d'un projet politique, de procéder à une espèce d'expansion du projet canadien.
Ouais.
Mais un projet canadien qui, en plus... est complètement vidé d'un où la langue ce n'est qu'une compétence c'est pas une culture parce qu'on est dans un Canada post-national.
C'est un moyen de communication.
C'est un moyen de communication et aussi dans une société où la dynamique numérique, le fait qu'on est dans une société dématérialisée fait en sorte que le défi d'intégration pour le français, il dépasse la question des migrants.
Ouais.
Oui, il faut intégrer à notre culture des nouveaux arrivants, puis essayer de faire en sorte que les francophones au Québec et au Canada forment un creuset auquel les nouveaux arrivants ont le goût de s'intégrer. Mais la société dans laquelle on vit et dans laquelle on va vivre à partir de demain, c'est aussi une société où, sur le plan linguistique et culturel, si on admet que la langue, c'est aussi porteur d'une culture, ben, il va falloir aussi se préoccuper de ce que je pourrais appeler le décrochage culturel, non pas des immigrants, mais des jeunes de la population en général au Québec et dans le reste du Canada.
Un nouveau contexte exige du nouveau droit, donc des nouvelles solutions juridiques.
Ben oui, parce que du moment où, mettons, il y a 20 ans, on disait ça nous prend des lois linguistiques pour assurer des transferts, accueillir les nouveaux arrivants en français, etc. On avait un contexte, on avait une dynamique. Mais là, ça nous prend des lois ou des politiques pour faire en sorte aussi que les gens qui parlent français depuis 8 générations continuent à le parler, à exiger d'être servis dans cette langue, à consommer.
Et que faut-il faire?
Ben moi, je pense qu'en tout cas que...
Conseil pro bono,
oui.
C'est le moment pro bono de notre chronique constitutionnelle.
Ben, il y a eu un virage au niveau fédéral où on a accepté d'intégrer une partie de la loi 101, à quelque part, dans la loi fédérale. On
oui.
a accepté l'idée d'égalité réelle, qui est une idée très canadienne, pour dire ben faut pas traiter les deux langues de la même manière. Et il faut, si le français a besoin de plus de protection, l'égalité réelle commande qu'on admette qu'au Québec, même au Québec où le français est majoritaire, la langue française est menacée. Donc,
voilà.
Ce virage-là, il a été fait timidement par le gouvernement fédéral et il faut aller plus loin. Mais surtout, il faut que le fédéral accepte d'intégrer les standards de la loi 101 dans sa propre politique linguistique au Québec.
Oui.
C'est une chose d'appliquer la loi 101 à Bell, mais c'en est une autre. Je donne un exemple.
Oui.
Le bonjour, aïe, c'est très emblématique.
Oui.
Mais dans la politique canadienne fédérale, ben à l'aéroport et dans l'administration publique fédérale,
ça
au
va de
Québec,
soi. Ouais.
On est accueilli par le bonjour aïe. Donc il n'y a pas l'intégration dans la politique fédérale que sur le territoire québécois, il y a une prépondérance du français. Oui, le fédéral est préoccupé par la protection des anglo-québécois. C'est normal, ça fait partie de sa mission. Mais il n'y a pas l'intégration, comme dans la loi 101, de l'idée que les anglophones au Québec, ce sont des ayants droit qui ont une définition particulière et que les nouveaux arrivants qui parlent l'anglais au Québec ne font pas partie de cette communauté des ayants droit et qu'ils ont vocation à être obligés de s'intégrer à la communauté francophone. Donc, il faut que dans ces politiques, le fédéral aille jusqu'au bout du virage qu'il a entrepris.
Ben
moi,
oui.
Je pense que la politique la plus emblématique de cela et qui serait presque une forme d'indépendance linguistique pour le Québec, hein, c'est l'idée de, oui, prépondérance des lois du Québec en matière linguistique, mais aussi que le fédéral, dans le bout qui lui appartienne, intègre ces standards-là québécois. Donc, au moment
par exemple, sur les plaines d'Abraham, il faudrait pas que tout soit bilingue dans l'affichage du parc.
Parce qu'il faudrait qu'il intègre
ou sur le pont Jacques-Cartier, oui, c'est ça.
Et aussi, et je pense que c'est très important par rapport à l'enjeu des nouveaux arrivants, mais quand on est un nouveau citoyen canadien et qu'on prête serment de citoyenneté au Canada sur le territoire québécois, on se soumet actuellement à des tests. Il faut maîtriser un peu l'histoire canadienne, il faut maîtriser l'une des deux langues officielles. Et en ce moment, la politique canadienne, c'est de laisser le choix au nouvel arrivant de la langue officielle qu'il décide d'épouser. Mais si le fédéral prend au sérieux cette question de la protection du français au Québec pour l'avenir, il faut qu'il intègre le standard loi 101 dans cette question des tests linguistiques qu'il fait déjà pour les nouveaux citoyens, mais en acceptant l'idée que quand on arrive au Québec, le message que le fédéral arrive, le Canada est un pays plurilinguistique dans lequel il y a des provinces.
C'est
où
très bon.
La langue prépondérante est le français. Et ça, ce pas-là n'a toujours pas été fait.
C'est la prochaine, les prochaines batailles.
C'est pas une garantie de succès, mais s'il le fait trop tard, c'est sûr que ça marchera pas.
Comme il le fait souvent dans le passé, le fédéral attend que finalement ce soit un peu folklorisé les cultures avant de les défendre. Hein? C'est un peu le réflexe du Canada. Merci infiniment pour cet exposé, je dirais, qui se termine par des propositions très concrètes qui peuvent mener à des combats. Merci infiniment, Patrick Taillon, notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval.
Merci, Antoine.
Là-haut sur la colline. Disponible aussi en balado sur l'application et le site cube.ca. Radio, télé, balado, vidéo. Cube, un média pas comme les autres.